Quel bon moment pour l'accueillir. Il a vécu tellement d'années comme ambassadeur du Canada en France. Lawrence Cannon est avec moi. Allô, Lawrence.
Bonjour, Rock.
Notre-Dame.
Notre-Dame, ah oui. J'ai été, comme beaucoup de personnes, frappé par cette tragédie. Je me souviens d'avoir vu le titre dans le New York Times cette semaine qui disait, dans le fond, Notre-Dame, c'est le visage de la beauté et de l'histoire de Paris. Et combien d'autres témoignages qu'on a vus dans les quotidiens à travers le monde, les images, puis sans doute beaucoup de nos auditeurs ont vu ça à la télévision, les images des flammes qui ravageaient la voûte, la charpente, et puis évidemment la toiture de l'édifice datant du 12e siècle, Rock. Je pense on,
même toi, tu n'étais pas là.
Même moi, j'étais pas là, hein, puis toi non plus, puis je pense que tes grands-parents puis tes arrière-grands-parents ne pensaient même pas à toi.
Quand même pas.
Mais
peut dire.
Tu as visité Notre-Dame, j'ai visité Notre-Dame, moi, pendant mon mandat comme ambassadeur. On est vraiment frappé par l'histoire derrière cette place. Le sacre de Napoléon, par exemple.
Oui.
Cet endroit qui a résisté aux nazis, au fascisme durant la dernière Grande Guerre, j'y étais, moi, pour des commémorations pour la première Grande Guerre à deux, trois reprises, au fait. Et il y a un aura autour de cet endroit qui est absolument incroyable. Ce qui m'a frappé aussi, Rock, c'est la rapidité avec laquelle les Français, la solidarité française... Parmi les familles fortunées, il y en a trois, au fait, qui m'ont vraiment... Ça m'a marqué un peu le groupe Kering qui a annoncé 100 millions d'euros dans la nuit de lundi à mardi. Ça, c'est suivi par la famille Arnault. Ça, c'est LMVH, qui Louis Vuitton, etc. 200 millions d'euros qu'ils ont avancé, de même que... les Bettencourt, ça, c'est le groupe L'Oréal. Et ça, c'est un autre 200 millions d'euros. Alors,
ouais.
C'est suivi des J.C. Decaux, puis c'est suivi de la famille Bouygues, Paris, bon, PNB Paribas. Ils ont réussi, dans l'espace de 24 heures, Rock, à amasser 800 millions d'euros pour la reconstruction de cette chose-là. Ça vient du secteur privé. À cela s'ajoute, évidemment... l'engagement formel du président de la République, Emmanuel Macron, qui lui aussi a annoncé la reconstruction de cette église et qui aussi, en même temps, en a profité pour dire on va le livrer dans les 5 prochaines années. 14 millions de visiteurs Rock en 2017 ou 2018, pardon. Sur les quoi 80 quelques millions de visiteurs en France, il y en a 14 millions qui vont fouler le parvis de cette église-là. Alors, c'est impressionnant, vraiment impressionnant.
C'est important pour les Français, mais c'est aussi important pour la planète, là. Je veux dire, les réactions sont arrivées de partout.
Ah, absolument, absolument, absolument. Comme je disais en entrée de chronique, peu importe le quotidien à travers la planète, là, c'était la une. C'est quand même une chose qu'on voit très rarement. Le journal Le Monde... Deux éditions consacrent 10 pages à cette émission, à cet événement-là, à cette tragédie-là. Alors, c'est peu dire. C'est un événement qui peut s'inscrire probablement dans ce qu'on a vu au niveau médiatique du 11 septembre,
oui,
ce qu'on a vu de l'après-guerre, etc. Ouais. Tu sais, la libération de Paris. Bon.
Lawrence, toujours pour terminer sur ce sujet-là, toujours sur la question de Notre-Dame. Tu as raison de dire que la réaction a été excessivement rapide, notamment de M. Macron. La maire de Paris également annonce la conférence, etc. Écoute, c'est dans les minutes de l'événement où les plus hautes instances publiques ont réagi. Après ça, la société civile a réagi. Je me posais la question suivante. Dans ton expérience, dans ton appréciation des choses là-bas, quel sera l'effet de Notre-Dame sur les Gilets jaunes?
Oui, il y a des gens qui ont fait un peu cette image en voyant le feu jaillir de Notre-Dame en disant que c'est peut-être symptomatique des grands problèmes sociaux qui ont cours en France. Je pas nécessairement. Je vois bien l'image là, que la personne voulait représenter parce que.
Non, mais est-ce que ça va faire atténuer la grogne?
Ben, c'est ça, la crise sociale. La crise sociale qui sévit présentement en France devait justement. La réponse devait, du grand débat, devait venir du président de la République.
Le soir même.
Le lundi soir.
C'est ça.
Il l'a reporté à la semaine suivante. On me dit, moi, qu'il y aura des réductions d'impôts, il y aura plein de choses. Alors, on verra, peut-être la semaine prochaine, on pourra, toi et moi, en discuter sur les suites de ce grand débat. Est-ce que ça va atténuer la grogne des Gilets jaunes? J'en sais rien, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas vu la contre-proposition en provenance du gouvernement.
Vu une hypothèse, tu me diras ce que tu penses. Moi, j'ai l'impression que la question des Gilets jaunes, les manifestations du samedi, pour que ça puisse survivre, il faut avoir un genre de mouvement populaire qui supporte ça. L'opinion publique populaire qui supporte ça. Pas nécessairement. Mais tu sais, le monde qui sont encore chez eux, mais qui voient le monde dans la rue, dans le fond, ils ont raison, puis ils font ça pour moi, puis c'est le combat. Moi, j'ai l'impression que ça a peut-être basculé en disant non, là, c'est assez. Il y a une réponse. Et là, la France est appelée à une solidarité. On est attaqué. Attaqué, grand mot, là. Mais le feu a attaqué l'institution la plus importante que l'on a, la plus visible que l'on a. C'est notre identité. Là, c'est le temps de serrer les coudes. Ça suffit, les chicanes. Est-ce que ça se peut que ça arrive?
Je pense qu'il y a des grands élans de solidarité rock et qui sont tout à fait indépendants et autonomes des autres événements. Je m'explique. J'étais là lorsque... Il y a eu les attentats du Bataclan, mais avant cela, au mois de janvier, les attentats chez Charlie Hebdo. Il y a eu une manifestation absolument incroyable de la part des citoyens en appui aux forces de l'ordre, en appui à l'autorité. 2 millions de personnes dans les rues. Je me souviens, j'ai jamais pensé dans ma vie que je serais dans une foule comme celle-là. C'était absolument inouï et cette sympathie envers les forces de l'ordre, cette sympathie et cette solidarité envers la liberté de presse, parce que c'était Charlie Hebdo qui était attaqué, ça, j'ai jamais vu ça puis je ne pense pas le revoir. Les Français ont l'habitude de prendre la rue pour aller manifester soit leur approbation, soit leur mécontentement. Et donc, juste une anecdote, Rock, j'ai jamais vu, moi, une autorité gouvernementale avoir un département qui estime ou fait les estimations de la foule qui est présente, tout comme ceux qui sont les promoteurs de cette manifestation. Moi, pour moi, c'est une grande nouvelle. Ça fait partie des nouvelles qu'on entend le lendemain d'un événement. Il y avait tant de personnes qui étaient là, etc. Moi, toi et moi ici, bon, il y a une manifestation... Bon, ben, il y avait 3000 personnes, puis on se donne pas la peine de dire que... Bon. Mais ça fait partie, je dirais, de l'ADN des Français. Et ça remonte, évidemment, à la prise de la Bastille. Ça fait partie, là, des chromosomes.
Ça, le héritage de la culture.
Ouais, ouais.
On revient de ce côté-ci de l'Atlantique. Je veux absolument te parler de l'événement politique de la semaine au Canada, l'élection de ton ancien collègue.
Oui.
À la tête de l'Alberta, M. Kenney, qui devient premier ministre. Un retour, donc, des conservateurs au pouvoir après un écartade de néo-démocrates. Jason Kenney part fort avec une majorité, avec un discours très dur à l'effet qu'on s'en va en référendum sur la péréquation, on va s'opposer à la taxe sur le carbone... on veut le pipeline et il a même lancé en français un message au premier ministre Legault. Comment tu vois ça, toi, l'élection de Jason Kenney?
Je suis d'accord avec toi, Rock. Je pense que la majorité des commentateurs politiques au Canada ont vu cette élection comme étant une élection où il y avait certainement parmi ces observateurs-là un consensus pour dire, un peu comme tu viens de dire, le trouble est à venir. Donc, moi, l'angle que je voulais aborder ce matin avec toi, c'était l'angle qui était de dire, est-ce que véritablement c'est une menace à l'unité du pays? Parce qu'il y a une seule personne, il n'y a pas de cabinet, il n'y a pas de ministre responsable de l'unité nationale, il y a une seule personne au gouvernement fédéral qui s'occupe du dossier de l'unité nationale, et c'est le premier ministre. Donc, pour moi, les menaces de dire, bon, bien, on va fermer le robinet du pétrole en direction de la Colombie-Britannique, tenir un référendum sur la péréquation, abolir la taxe de carbone. Moi, le soir de sa victoire, son discours, moi, m'a paru comme étant un discours plutôt de chef d'État et celui de main tendue au Québec, de travailler avec le Québec pour créer vraiment une véritable union économique canadienne. Ouais. Il a aussi évoqué la grande frustration comme quoi l'Alberta et les Albertains ont contribué à la richesse du pays et puis aujourd'hui, en retour des difficultés, ils essayent de trouver une porte de sortie, puis il n'y en a pas. Alors, pour moi, les menaces, dans le fond, Rock, qui ont été proférées en campagne électorale et sa mise en œuvre ou la mise en œuvre de ces menaces, c'est très loin dans le temps.
Ah oui?
Fermer le robinet risque de pénaliser qui? Les producteurs de pétrole. Ça risque pas de faire mal à la Colombie-Britannique. Ils peuvent se revirer de bord et dire on va prendre notre pétrole ailleurs. Les réformes sur le programme de péréquation donneront pas une scène de plus à l'Alberta. Et tu sais, comme tu rappelais, je pense, cette semaine, c'est un programme fédéral. Donc, je pense plutôt, si Jason Kenney choisit, comme le Québec l'a fait pendant de nombreuses années, à regarder ce programme-là, mais en fonction peut-être de transfert de points d'impôt, un point d'impôt, c'est-à-dire que le fédéral cède une partie de sa juridiction sur la collecte des revenus, puis disent à l'Alberta, par exemple, dans le programme de transfert des soins de santé, vous aurez un, deux, trois points d'impôt. Ça a toujours été historiquement une position que le Québec avait mis de l'avant. Et peut-être que l'Alberta va y trouver une porte de sortie. L'abolition de la taxe de carbone, Mme McKenna ce matin a répondu en disant, bon, ben, si vous décidez d'abolir la taxe de carbone, moi, je vais revenir puis je vais imposer la taxe fédérale. C'est le backstop, si tu veux, qui a toujours été là. Mais moi, il me semble que le véritable défi, et là où ça risque un peu de se scraper, si tu veux, passe-moi l'expression, c'est, tu sais, il y a eu une limite sur les émissions de gaz à effet de serre en provenance des sables bitumineux. La limite, le plafond, c'est 100 mégatonnes. Alors, si le gouvernement de M. Kenney choisit de dire on va faire fi de ça, et plutôt que de limiter cette chose-là, on va pouvoir poursuivre, ça, à mon avis, va devenir l'élément contentieux. C'est pas le nombre de pipelines qu'il va avoir, c'est combien de barils on va produire par jour et combien de gaz à effet de serre qu'on va permettre dans l'atmosphère. Alors ça, c'est la chose, à mon avis, Rock, à surveiller.
Donc, beaucoup de choses à suivre et évidemment, le théâtre de tout ça est l'élection fédérale. Merci beaucoup, Lawrence.
Merci, Rock.
Lawrence Cannon, notre chroniqueur.